La jeunesse du monde officiel est en grand émoi. Madame la comtesse de Morny va donner un bal masqué qui sera, dit-on, merveilleux. Les invités porteront expressément le costume Louis XV et la poudre. Tous les mollets du beau monde sont aux abois.
Un soir chez Morny, le bal masqué du 2 mars 1859. Sous le Second Empire, on organise de nombreux bals. Naissance, mariage, fêtes publiques ou privées, tous les prétextes sont bons. Et pour casser la routine, on se déguise en as de pique ou en Marie-Antoinette. Les vêtements du quotidien d'hier deviennent les costumes d'aujourd'hui. Si vous êtes suffisamment bien dissimulé par votre personnage de location, il y a moyen d'y trouver certaines libertés. On peut raconter le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte et la commune qui réduit en cendres son palais impérial 18 ans plus tard. Mais comment restituer une soirée festive vieille de 150 ans? Son effervescence, ses croisements, ses regards plus ou moins distants, les complots majeurs ou minuscules à l'ombre des velours, son ivresse, tous ces moments fugaces propres à chaque soirée. À la recherche de la mémoire perdue du bal masqué, un soir chez Morny, nous sommes le 2 mars 1859, à l'entrée de l'hôtel de Lasset, près de l'Assemblée nationale.
Vous savez, messieurs, que la fin du carnaval a été signalée par un véritable déluge de bals costumés. C'est ainsi que le 28 février, il y avait bal costumé chez Monsieur le ministre d'État, le 2 mars, bal costumé chez Monsieur le comte de Morny, le 5 mars, bal costumé aux affaires étrangères, et le 7, enfin, bal costumé chez l'impératrice. Et je ne parle ici que des fêtes officielles, sans compter toutes les réunions particulières qui ont été nombreuses.
Corinne Le Goy, pourquoi organise-t-on un bal masqué le 2 mars 1859 ?
Parce que c'est la période du carnaval et que tous les grands salons aristocratiques, mais aussi et surtout tout le monde officiel du Second Empire, organise entre novembre, décembre et mars, avril, selon le calendrier du carnaval, de grandes soirées masquées et costumées dans les salons officiels des grands ministères, des ambassades, mais aussi aux Tuileries pour Napoléon III.
De l'usage et de la politesse dans le monde, par Madame la Baronne de Fresnes, 1858. Il existe un grand pont entre une soirée dansante et un bal, comme étiquette, comme élégance, comme luxe même. Mais comme savoir-vivre, la règle est toujours la même. Ainsi, il est du plus mauvais goût et d'un manque complet de convenance à une maîtresse de maison d'être parée chez elle. Une maîtresse de maison qui porte des diamants à son bal est une sotte ou une parvenue. Les invitations pour un bal s'envoient toujours une quinzaine de jours à l'avance, afin que les dames aient du temps devant elles pour leur toilette. Il en est d'un bal comme d'un grand dîner. Ou n'en donnez pas. Ou faites-le avec toute l'élégance et le luxe qui vous sera possible.
Le comte de Morny, en 1859, a une quarantaine d'années et c'est à la fois un homme fort du régime, une des grandes personnalités du Second Empire, et aussi, on peut le dire, un homme auréolé d'une forme de parfum de scandale. Il faut revenir sur ses origines. C'est le fils naturel de la reine Hortense et du comte de Flahaut. C'est le petit-fils naturel de Talleyrand. C'est le demi-frère de Napoléon III. Et donc, il a déjà une histoire familiale très singulière. Et c'est pas pour cette raison qu'il est proche de Napoléon III, puisque finalement, il ne fait la connaissance qu'assez tardivement de son demi-frère, en 1849. Mais à partir de 1849, il s'en rapproche et il devient une des chevilles ouvrières du coup d'État. Et donc, à partir de 1851, il devient, par son rôle même dans le coup d'État, une figure indispensable du régime. Il contribue à l'installation et à la mise en place du Second Empire.
Et donc de son demi-frère.
Et donc de son demi-frère au pouvoir. Demi-frère avec lequel il a des relations à la fois de proximité et des relations aussi assez ambivalentes. Napoléon III s'en méfie. Il n'empêche que, en 1859, il est un homme fort de ce régime. Il est président du corps législatif et donc il a un rôle très important. Il a un rôle également, et on le voit dans la suite du régime, d'influence politique sur son frère. Morny est un des artisans et partisans de l'évolution libérale du régime, contre Rouher en particulier, qui est partisan d'un empire autoritaire. Mais c'est également une personnalité auréolée d'un certain nombre de scandales, scandales financiers. Il est mêlé dans une série d'affaires aux franges de la légalité, pourrait-on dire, au cours du Second Empire, et aussi personnalité de scandale par sa vie privée, avec des maîtresses, voix très connues et très influentes. Fanny Léon, par exemple, qui a contribué à lui donner de l'argent dans une série d'affaires qui ont entaché la réputation de Morny, mais aussi la Castiglione, figure très connue du Second Empire. Et donc, à la fois par sa vie privée, par les affaires qui l'entourent, c'est également une personnalité, je dirais, sulfureuse.
Le président du corps législatif et la comtesse de Morny prient Monsieur Arsène Housset de leur faire l'honneur de venir passer la soirée chez eux le mercredi 2 mars à 10h. On est prié de venir en costume, époque Louis XV, avec poudre ou en domino. On dansera. Cette carte devra être remise en entrant. Réponse, s'il vous plaît.
Aux yeux d'hommes et de femmes du XXe ou du XXIe siècle, et à nos yeux d'historiens, il y a quelque chose d'assez surprenant à observer le calendrier de la vie mondaine pour le monde officiel. C'est-à-dire que ce sont des ministres, ce sont des conseillers d'État, des ambassadeurs, parfois des préfets, qui sont conviés à des bals masqués, qui commencent extrêmement tard dans la soirée. Pour le 19e siècle, les plus tôt commencent vers 21h30. La plupart du temps, ils commencent vers 22h, mais parfois à 23h. C'est le cas de bal masqué chez Persigny, par exemple, dont on a des traces, qui se termine fort tard dans la nuit. Et c'est ce qui fait que, du coup, on a un usage du temps ministériel absolument frappant, où il y a des nuits festives, des nuits masquées et festives, que ces hommes vivent de bout en bout la plupart du temps, et donc il y a un élément intrigant de cet usage du temps.
À peine étais-je arrivé au bal de Morny, une femme se jeta à ma rencontre. C'était un domino de satin blanc, tout épanoui de violette. Je me penchais sur son cœur pour respirer comme dans un paradis retrouvé, car je ne doutais pas que cette femme ne me fût bien connue. On ne se jette pas ainsi dans les bras des gens si l'on n'a pas déjà voyagé ensemble dans la vie. Elle commença par me débiter des impertinences. Par la raison qu'elle m'accusait de tous les crimes, je lui reconnus toutes les vertus. « Toutes les vertus, me dit-elle, vous allez être bien attrapés, vous qui cherchez des femmes demi-perdues, de ne trouver en moi qu'une femme impeccable. Mon domino est le symbole de ma vertu. Alors, pourquoi vous jetez-vous dans mes bras? C'est parce que je n'ai pas peur. On m'a dit tant de mal de vous que je veux faire des fouilles dans votre cœur. Je n'en ai pas. » Ce fut à peu près ainsi que s'engagea la guerre. Je voulais toujours respirer les violettes, mais le domino me battait à coups d'éventail pour me contenir dans les limites légendaires.
Le 19e siècle est un siècle de la catégorisation, de l'assignation des individus à un statut, à une fonction et évidemment à un genre. Il faut que le corps social soit immédiatement lisible dans une société qui se ressent et qui se vit comme bouleversée par la Révolution. Et donc, il faut réinscrire cette pratique du bal masqué dans ce poids très fort de cette assignation des individus. Pour le dire autrement, ce que vous portez doit signifier ce que vous êtes, et ce que vous êtes doit se lire clairement et manifestement dans ce que vous portez. Or, ce qui est frappant, c'est que le siècle, le 19e siècle, qui est obsédé par cette assignation identitaire, en quelque sorte, est celui qui a le plus abondamment pratiqué le bal masqué. Et donc, du coup, indéniablement, on est amené à penser que c'est une forme d'affranchissement, de volonté d'affranchissement vis-à-vis de cette assignation identitaire ou de genre ou de catégorie sociale très forte.
Madame, permettez-moi.
Ces bals masqués politiques sont la singularité, l'exception du Second Empire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre régime qui, avant ou après, voit les ministres dans les hôtels ministériels, même si ce sont leurs demeures, organiser des bals masqués officiels où se croisent monde et demi-monde. Et donc du coup, la question se pose automatiquement pour l'historien qui est d'essayer de comprendre pourquoi, sous le Second Empire, sont organisés ces bals masqués politiques. Il faut bien voir que les bals sont extrêmement fréquents, mais qu'il y a une forme d'usure et de monotonie à devoir porter en permanence des robes du soir. Et que d'une certaine façon, c'est un moyen d'introduire de la fantaisie dans un rituel obligé qui est celui du bal. Ces bals masqués permettent beaucoup plus que les bals conventionnels de mettre en scène le luxe et le faste. Et on sait que c'est un élément extrêmement fort et un élément extrêmement important pour le régime de Napoléon III.
Et d'en faire une vitrine pour le régime ?
Oui, d'en faire une vitrine pour le régime, à la fois par le luxe, mais aussi parfois par les thèmes qui sont choisis. C'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'un certain nombre de bals masqués dans les tableaux ou dans les entrées que ces bals recèlent, ça rime à l'actualité et au succès du Second Empire. C'est le cas en particulier au ministère de la Marine d'un bal masqué qui est organisé avec un défilé cochin chinois dans les temps qui suivent l'instauration de la colonie française d'Indochine. Et donc, par les thématiques possibles, c'est une façon de mettre en scène les succès du régime. Au lendemain également de l'inauguration du canal de Suez, en 1869, on remarque une vogue dans les bals masqués, des burnous, des chlamydes, voire des pyramides sur la tête, et qui sont du coup, là aussi, une forme de mise en écho des succès du régime ou de ce qui veut être présenté comme des succès du régime.
Votre invitation porte 11 heures. Il y aurait indiscrétion à venir avant et impolitesse à se présenter trop tard. Ce serait témoigner peu d'empressement. À votre entrée, vous avez rendu vos hommages au maître et à la maîtresse de la maison. Vous circulez dans le salon et saluez successivement les personnages de votre connaissance. Un coup d'œil rapide jeté sur les banquettes vous a fait distinguer les femmes et les jeunes filles auxquelles, par devoir ou par tout autre motif, vous devez adresser vos premières invitations. Empressez-vous, vous n'avez que le temps, voici l'orchestre qui prélude. Un cavalier ne doit pas passer son bras autour de la taille d'une demoiselle. Cela n'est permis qu'envers une femme mariée. Il posera donc sa main à plat, au milieu du dos, et ne tiendra pas sa danseuse trop rapprochée de lui. Celle-ci, de son côté, ne s'abandonnera pas sur l'épaule de son valseur, pas plus qu'elle ne se rejettera trop en arrière. Ces deux extrêmes sont à éviter. Toute danseuse est tenue d'agréer indistinctement ceux qui se présentent. Elle apportera la plus grande attention à ne pas prendre deux engagements pour la même danse, et si, par mégarde, elle avait commis cette maladresse, le seul moyen de la réparer serait de s'abstenir pour cette fois et de demeurer assise. Quant au cavalier, assez oublieux pour laisser se morfondre une personne qui l'aurait invité, il s'expose à de fâcheuses conséquences. Un si blessant oubli ne saurait s'excuser.
Ces bals masqués, donc, qui commencent vers 21h30 ou 22h, sont précédés par un très long temps de préparatifs, et en particulier pour les femmes. C'est le temps des derniers ajustements des costumes, où l'on fait revenir les petites mains des ateliers de couture pour ajuster un bouquet, un ruban, replacer un décolleté. Et donc le temps qui précède le bal est un temps occupé par ces préparatifs.
On se prépare toute la journée.
On se prépare toute la journée et parfois on se prépare des semaines, voire des mois avant. Quand on est averti un mois avant un bal masqué, il s'agit de réfléchir à son costume, de passer commande, de faire des essayages. Il s'agit également parfois de répéter des chorégraphies, de répéter pour les femmes qui vont être appelées à danser ou à interpréter un certain nombre de scènes masquées. Il peut y avoir des répétitions. Et donc, c'est une forme d'occupation de mois, de semaines passées dans l'attente de ce bal et dans la préparation de ces bals. Si l'on se recentre sur la journée, on se prépare et on dîne avant les préparatifs, mais il faut savoir qu'au XIXe siècle, on dîne assez tôt, en fin d'après-midi. Et donc, du coup, on dîne, on se prépare, puis on se rend au bal.
Finalement, fréquenter ces bals, qu'ils soient masqués ou costumés, semble être un travail à temps plein, Corinne Le Goy.
C'est un travail à temps plein qui suscite de considérables critiques. C'est-à-dire que pour beaucoup d'observateurs, largement après la chute du Second Empire, mais même pour pas mal de contemporains, c'est une occupation d'oisif, et pour reprendre la formule d'un contemporain, d'individus qui ne connaissent pas le mot « devoir » et le mot « obligation » et qui n'ont pour seul mot à la bouche, le mot de plaisir et le mot de divertissement.
L'important, c'est de s'y montrer, pas forcément de durer au cours de la soirée.
Exactement, l'important, c'est d'y paraître. L'enjeu très fort, c'est d'en être. C'est ce que disent tous les observateurs. Et ensuite, effectivement, pas nécessairement d'y rester. D'ailleurs, ceux qui restent très tard dans les bals masqués sont eux-mêmes l'objet d'un certain nombre de critiques. Se développe à ce moment-là tout un discours sur les viveurs, sur les oisifs, sur ces gens qui n'ont qu'une seule chose à faire, c'est de participer le plus tardivement possible à ces bals masqués.
La dame était charmante, d'autant plus charmante que je ne la voyais pas bien. Charmante par la désinvolture, par ses yeux qui brûlaient le masque, par ses dents qui éclataient sur ses lèvres rouges. On a beau être dans un bal masqué, masqué pour les femmes, on voit toujours la bouche avant de s'aventurer. Et ici, la bouche, dents blanches, lèvres rouges, senteur de vie, jetait les plus jolis mots, de l'esprit en diable et à la diable. Est-ce que c'est votre habitude d'avoir tant d'esprit ou bien n'est-ce qu'un accessoire de carnaval? Pourquoi cette impertinence? Parce que je connais beaucoup de femmes qui n'ont pas d'esprit chez elles et qui s'en donnent à cœur joie dès qu'on ne les connaît pas. Vous voulez dire que je débite des choses risquées? Oui, risquées, mais je n'en rougis pas.
Se mêle à ce monde officiel ce que Dumas fils a appelé joliment ce qui a été appelé par lui le demi-monde et qu'il a défini d'une formule assez lapidaire en disant que le demi-monde commence là où celui de l'épouse légale termine, c'est-à-dire aussi les grandes courtisanes qui sont présentes lors de ces bals masqués. Et donc du coup il y a une forme toute relative, mais il y a une forme d'éclectisme social également dans ces bals masqués officiels. La presse se fait un jeu d'identifier les participants au bal masqué, puisque par définition, sous le masque, on ne reconnaît pas nécessairement les invités. Mais la presse, le lendemain des bals masqués, se fait un jeu de les identifier et donc de dévoiler au grand public qui était présent lors de ces bals masqués.
Et l'empereur assiste à ce bal également ?
L'empereur n'est pas présent à ce bal, mais il assiste à de nombreux bals masqués. C'est-à-dire que non seulement il assiste aux bals masqués organisés par ses ministres, par les ambassadeurs, il organise lui-même des bals masqués aux Tuileries et il se glisse parfois dans le bal masqué de l'opéra.
La dame se montrait de plus en plus, jouant avec fureur de son éventail, parlant à tort et à travers. Mais je comprenais bien qu'elle jouait à tous les masques. J'avais beau la regarder de face, de profil, de trois quarts, soulever le masque de son cœur comme celui de sa figure, j'étais ébloui et aveuglé. Voyons, reconnaissez que vous ne me connaissez pas. Non, je ne vous connais pas. C'est pour cela que je vous aime. Oh, voilà une déclaration de guerre. N'êtes-vous pas mon ennemi? Ni ennemi, ni ami, je veux m'amuser, voilà tout. Moi aussi. Je vais m'amuser. Voilà tout.
Les soirées, les bals sont le terrain par excellence des véritables gens du monde. C'est leur élément, le milieu où ils respirent le plus à l'aise, où leurs facultés se déploient le plus amplement. Mais c'est en même temps l'écueil le plus redoutable pour les gens dont l'éducation est imparfaite. C'est donc là, surtout, que les débutants ont besoin de se tenir sur leur garde.
Ah, quel dîner je viens de faire, et quel vœu extraordinaire. J'en ai tant bu, mais tant, que je crois bien.
La thématique Louis XV, qui est très en vogue sous le Second Empire, illustre exactement le syncrétisme, l'ambivalence, les paradoxes de ce régime, qui est à la fois héritier du souvenir impérial, du Premier Empire, mais qui aussi se matine d'une forme de souvenir monarchique, tout en indéniablement mobilisant une forme d'imaginaire démocratique. Et c'est cette espèce de syncrétisme qui, en quelque sorte, caractérise très fortement le Second Empire. Et d'une certaine façon, ce bal masqué Louis XV est une forme de métaphore de ce syncrétisme politique. La mobilisation de ce souvenir monarchique est sans doute une façon de s'inscrire dans l'histoire pour effectivement, pour un régime pour lequel les assises sont somme toute assez fragiles au départ, assez contestées également, très marquées par la mémoire du coup d'État. Donc c'est une façon effectivement de s'inscrire dans une histoire. Néanmoins, on ne peut pas dire que le régime s'appuie ou puise sa légitimité véritablement dans l'héritage monarchique. Il a d'autres sources, celle du Premier Empire et celle de ce mélange avec une forme de souveraineté populaire. Donc c'est à la fois vrai et faux que de dire que c'est une façon de se consolider et de se légitimer. On peut peut-être aussi y voir une autre explication qui est la mobilisation, peut-être plus simplement, d'une histoire fastueuse qui est celle du règne de Louis XV, de la Régence, histoire festive, histoire fastueuse, sur laquelle s'appuie très fortement le Second Empire.
On invite aussi les étrangers de passage, officiels ou moins officiels ?
Oui. Dans ces bals masqués se croise toute l'aristocratie européenne, hein, pas seulement française, les souverains, mais aussi les ministres, et puis aussi la noblesse présente à Paris lors des mois d'hiver. C'est le cas, par exemple, de la baronne de Korff, dont on sait qu'elle était présente au bal masqué de Morny de mars 1859, qui est invitée par Morny et qui fait partie de cette aristocratie russe qui a pour habitude de passer l'hiver à Paris et qui a renoué récemment en 1859 avec cette habitude suite à la réouverture de la Russie par Alexandre II après la fermeture qu'a représenté le règne de son père Nicolas Ier.
Tribunal civil de la Seine, 5e chambre, présidence de Monsieur Labour, audience du 6 avril 1859. Madame la baronne de Korff contre Madame Delphine Baron. Demande en paiement de prix de deux costumes. Demande en dommages-intérêts. Une grande dame russe, Madame la baronne de Korff, et ses deux filles, invitées à un bal costumé chez Monsieur le comte de Morny, se sont adressées pour avoir deux costumes de bouquetière Louis XV à Madame Delphine Baron, qui a succédé depuis peu de temps à la célèbre maison Moreau. Seulement, Madame la baronne de Korff a refusé ses costumes, en disant qu'on les lui avait apportés trop tard et qu'en outre, ils étaient immodestes. Elle demande en conséquence 3000 francs de dommages-intérêts. Tandis que de son côté, Madame Baron demande le paiement du prix des costumes.
Si ces bals masqués, ces bals costumés sont un lieu de transgression, cette transgression est malgré tout très encadrée. À la suite de ce bal organisé chez les Morny en 1859, Corinne Legoix, on va assister à un procès contre une couturière qui a fabriqué certains costumes des invités de Morny.
Ce qui est intéressant dans ce procès, c'est en réalité la confrontation des plaidoiries, celle de la plaidoirie de l'avocat de la baronne de Korff, Léon Duval, et l'avocat de la couturière, Gustave Schex d'Estange, avocat très connu puisqu'il a défendu 2 ans auparavant Baudelaire et Flaubert. Et en réalité, ce que ces deux plaidoiries nous montrent, ce sont deux représentations antagonistes du bal masqué, avec du côté de la baronne, qui défend la pudeur de ses jeunes filles, un bal masqué qui devrait être soumis aux codes sociaux de la bienséance, et de l'autre, Gustave Schex d'Estange, la couturière, un monde qui défend la singularité du bal masqué et son arrachement aux normes sociales et aux codes usuels. Et donc on est dans un conflit de normes, un conflit de représentation du bal masqué, et qui est emblématique en réalité de toutes les représentations du bal masqué pour le siècle.
Et pourtant, elles ont porté ces tenues au cours de ce bal chez les Morny le 2 mars 1859.
C'est le mystère historique. La baronne prétend que les costumes n'ont pas pu être portés et que c'est pour cette raison que, par ailleurs, elle refuse de les payer et qu'elle demande des dommages et intérêts. Schex d'Estange assure dans sa plaidoirie que les costumes ont été portés. Je ne peux pas trancher pour l'instant et donc il y a une sorte de suspense historique autour de cette question.
Jugement. Le tribunal, attendu que les costumes ont été livrés tardivement, qu'ils ne sont pas suffisamment décents et convenables, qu'ils n'ont pas été portés, a validé les offres réelles faites par Madame de Korff et, à raison du préjudice qui lui a été causé par la saisie conservatoire qui pouvait être considérée comme vexatoire, a condamné Madame Baron à lui payer 1000 francs à titre de dommages-intérêts et aux dépens.
Nous allions, nous venions, on avait beau nous parler de ci, de là, nous restions bras dessus, bras dessous, heureux de ne pas nous connaître et de nous trouver ensemble. Le maître de la maison, qui s'amusait comme s'il ne fût pas chez lui, vint un instant nous dire des folies. Quoiqu'il connût presque tout le monde, puisque les femmes s'étaient démasquées pour lui à leur entrée dans le premier salon, il ne savait pas bien à qui il avait affaire, tant les dames étaient malicieuses pour jouer aux métamorphoses. Naturellement, l'imprévu et l'inconnu, ces deux attractions irrésistibles, m'avaient pris le cœur. J'étais comme un condamné qui va rentrer dans sa prison.
Non, je ne sais pas, peut-être que c'est ça.
Avec un masque de lune, ce qui est un motif qu'on trouve, mais souvent plus tardivement dans le siècle, plutôt vers la fin du 19e siècle. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir toutes sortes de masques très ornés, très ouvragés. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a très peu de renseignements sur les masques portés. Ils sont très peu décrits et on a très peu d'éléments pour faire une histoire réellement des masques. Et du coup, de les voir portés, reconstitués, c'est un élément intéressant de cette soirée.
Et d'ailleurs, ce masque de lune, c'est presque inquiétant.
C'est assez inquiétant, mais le masque est inquiétant en général. Cette soirée, elle a une atmosphère à la fois festive et inquiétante, comme devaient l'être beaucoup de bals masqués. Et c'est pour ça que beaucoup de représentations du bal masqué insistent sur leur aspect morbide. La mort et le bal masqué, c'est un thème assez récurrent.
Pourquoi ?
Parce que parfois, les bals masqués finissent très mal avec des duels, comme dans le tableau de Jérôme, les suites d'un bal masqué qui se termine par un duel avec un Pierrot ensanglanté. Et c'est une thématique récurrente, soit la licence, soit la mort. On oscille un peu entre les deux. C'est pas très morbide aujourd'hui. Mais...
C'est une vision très moralisatrice, finalement, de la débauche du bal qui mène à la mort.
Effectivement, c'est une façon assez moralisatrice d'insister sur à la fois la décadence et la fin de l'individu liée à ce divertissement.
Quel est votre déguisement?
Moi, ce n'est pas un déguisement. Je suis costumée. Ça veut dire qu'il y a une recherche sur les gravures, les peintures historiques, etc. etc. Donc, on prend pas n'importe quoi, on se renseigne, on essaie de se créer un personnage. Donc, moi, je me suis inspirée de la robe d'impératrice Eugénie. Bah, si on bute, on bute. Oh.
Un jour particulier, pour un bal particulier, quel document vous aviez pour
non, j'ai regardé les peintures de Winterhalter, donc, où l'impératrice elle est avec toutes ses copines, etc. D'abord, je voulais prendre la robe impératrice, mais après, je me suis dit, peut-être celle de ses copines me va mieux. Après, ça, on a les ambitions, mais après, ça dépend aussi de notre corps, de nos gabarits, les points forts, les points faibles, vous le voyez. Donc là, j'ai choisi le mien. Et mais j'aime beaucoup de couleurs pastel, beaucoup de dentelles, les fleurs, rubans.
Et comment vous avez fabriqué cette robe?
J'étais obligée de le fabriquer moi-même parce que malheureusement, avec mes gabarits, les locations, c'est pas tout à fait faisable. Je suis trop grande. Du coup, j'étais obligée de confectionner moi-même.
C'est très réussi.
Mois et demi.
Un mois et demi de travail?
Ouais. Les week-ends, enfin tous les jours, les week-ends.
Voilà. Est-ce que vous pouvez essayer de décrire cette robe? On appellerait ça une crinoline?
Oui, la jupe elle est en crinoline, ça veut dire qu'il y a beaucoup de... comment ça s'appelle en français?
Des arceaux.
Voilà, des cerceaux. Il y a beaucoup de couches pour qu'on ne voit pas ces cerceaux. Ça augmente les hanches. Et ça affine la taille, du coup ça fait une silhouette très très bonne. Et après à l'époque ils ont eu les crinolines jusqu'à 2 mètres de diamètre, jusqu'à
4. Là c'est pas votre cas ce soir.
Jusqu'à 4. Oui, aujourd'hui on a le monde donc on frime pas trop.
Là vous avez 1 mètre de diamètre environ.
C'est 1 mètre et demi mais je pense qu'eux ils ont pour les bas, ils ont eu jusqu'à 4 mètres.
Et vous portez un corset?
Je porte un corset. C'est une vraie expérience, j'ai fait les arts martiaux, je préfère combat dur. Au lieu de porter corset pendant demi-journée, parce qu'il faut se préparer, il faut s'entraîner. Mon record personnel, c'est enlever 14 cm de taille. Mais j'ai tenu que demi-heure. Donc du coup, comme eux, il faut se préparer depuis le matin, on se corsette, et après on serre un tout petit peu, et un tout petit peu, un tout petit peu. Aujourd'hui, je n'ai pas enlevé 14 cm, c'est juste 5 cm, mais ça donne tout de suite le maintien. Donc parfois c'est vraiment pour la beauté et pour la taille de guêpe. Là c'est 10-14 et aujourd'hui c'est confort, bon ça va, c'est juste 5-6.
Et vous pouvez passer toute la soirée comme ça?
5-6 facile, 14, n'importe quel effort physique, c'est vertige. Voilà, mais il faut souffrir pour être belle.
Et vous allez danser?
Dès que ma sœur arrive pour que je le confie mon sac.
Les costumes permettent aux femmes une exhibition du corps que les bals ne permettent pas, les bals classiques ne permettent pas, et que bien sûr la sphère sociale ne permet pas. Pour reprendre la jolie formule de Mérimée, dans les bals masqués, on est décolleté par le haut et par le bas. Eugénie décolletait abondamment sa poitrine et la montrait abondamment, et toutes les femmes de la grande société lors des bals le soir, mais le bas n'était pas montré. Donc il y a une visibilité du corps qui est permise par le bal masqué. Pas seulement parce qu'elles sont décolletées, mais parce qu'elles portent aussi des tenues, notamment ce qu'on appelle dans la langue du 19e siècle des maillots, c'est-à-dire une sorte de juste au corps, qui en fait ne font que couvrir la nudité, mais qui révèlent entièrement les formes. Et donc pour l'œil des hommes du 19e siècle, les femmes semblent paraître nues dans les bals masqués. Donc ça, c'est une très forte transgression des catégories. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que pour les hommes aussi, d'une certaine façon, et ça c'est peut-être plus étonnant, ce qu'on pourrait appeler les codes classiques de la virilité peuvent être bousculés. Par exemple, ce qu'on remarque, c'est que dans les bals mondains et officiels, et notamment sous le Second Empire, mais pas seulement, les hommes se travestissent volontiers en femmes. C'est assez récurrent, ça apparaît assez tôt. Dès 1820, il y a l'anecdote de Monsieur Demain qui est déguisé en femme au bal masqué de Madame de la Briche et il apprend l'attentat contre le duc de Berry alors qu'il est déguisé en femme et il ne réussit pas à se défaire de son costume de femme pour aller auprès du duc de Berry. Mais on a aussi l'anecdote du comte de Choiseul sous le Second Empire qui, lors d'un bal masqué, est déguisé en soubrette Louis XV et qui, toute la soirée, se fait harceler par des galants qui le prennent pour une jolie femme. femme. Donc ce travestissement en femme se pratique, et du coup c'est assez intriguant parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que au fil du siècle et au fil du 19e siècle, dans les bals masqués publics, l'opprobre est général et la répression est assez forte contre les hommes qui se travestissent en femmes. Et donc, du coup, il y a une sorte de distorsion et de différence. Ce qu'on pourrait ajouter, c'est qu'il y a un affranchissement aussi vis-à-vis des catégories sociales, en quelque sorte. Le carnaval, on le sait, c'est un rite d'inversion où le peuple devient souverain, pour le dire vite. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a des bals masqués d'inversion symétrique. C'est-à-dire que vous avez toutes sortes de bals masqués organisés par l'aristocratie, où le grand jeu des ministres, de l'aristocratie, de la haute bourgeoisie, c'est de se travestir ou en fort déal, ou en villageois, ou en domestique. Et donc on a ce rite d'inversion qui montre bien aussi une forme d'affranchissement des catégories assignées. Il a sans doute un autre sens, hein, puisque cette pratique, elle perdure. On la retrouve à Berlin, on la retrouve dans les années 30, etc. Mais il faut la souligner. Il y a une part de mystère pour nous dans les choix des costumes. Les bals masqués libres, qui sont l'essentiel des bals masqués du Second Empire, quand on observe et quand on essaye de traquer un peu les costumes qui ont été portés, il y a des costumes qui nous semblent absolument surprenants, étonnants, inouïs. On peut penser par exemple à Gustave Doré, dont on raconte qu'il s'est présenté à un bal masqué en campagne mouillée de pluie, avec des insectes qui lui sortaient des narines. Et il y a plein d'autres exemple. On peut se déguiser en flamme, on peut se déguiser en moulin à vent. Il y a les costumes fameux. Alors fameux parce que, par ailleurs, on en a conservé des traces de la comtesse de Castiglione, évidemment l'une des grandes maîtresses de Napoléon III, qui s'est costumée un jour. C'est un des costumes les plus fameux en dame de cœur, avec des cœurs brodés sur sa robe, qui a été prétexte à un mot assez méchant de l'impératrice Eugénie, qui a dit que chez cette femme, le cœur était placé bien bas, mais qui un jour apparaît également déguisée en religieuse, entièrement costumée, entièrement couverte, alors même que tout Paris avait bruissé du fait qu'elle paraîtrait nue au bal masqué. Sur ce costume de religieuse, une remarque d'ailleurs, et c'est là qu'on voit bien la séparation des mondes, le travestissement en habit religieux est strictement interdit dans les bals masqués publics. Or, la comtesse de Castiglione apparaît dans un bal officiel costumée en religieuse, et donc il y a bien un autre registre et d'autres codes.
Dites-moi pour une valse ce que vous préférez. Ou le jeune homme au jarret d'acier qui vous entraîne dans un tourbillon, affolé, ahuri, bousculant les autres couples, essoufflé, transpirant à grosses gouttes, galopant sans frein et sans méthode. Ou le danseur plus assagi, qui garde la mesure, vous berce dans une ondulation lente, vous évitant tout choc, vous guidant comme un bon pilote à travers tous les obstacles, et qui vous fait gentiment arriver au port, dans un joli rêve et sans heurts désagréables.
Venons de danser une gigue américaine dans le cadre du carnaval au musée Carnavalet. Une gigue américaine, une danse typique de la danse historique, où le principe même est la festivité, le divertissement, une danse très rapide, et avec un changement de partenaire quasiment toutes les 16 mesures, afin de croiser tout le monde dans la soirée et assurer la plus grande bonne humeur.
Donc venir en couple à ce type de bal sous le Second Empire, c'est pas forcément la meilleure idée. On change de partenaire tout le temps.
Alors, sous le Second Empire, venir en couple est une bonne idée. Cependant, il est rare que vous puissiez danser de nombreuses danses avec votre partenaire. Il y a, selon les époques, cela varie, souvent que 3 danses que vous pouvez octroyer à votre mari. Vous ne pouvez réellement danser avec une personne qu'à partir du moment où vous êtes engagé avec elle, c'est-à-dire l'année qui précède le mariage, entre les fiançailles et le mariage. Et puis après, c'est le décompte que la morale permet. trop danser avec un homme, c'est assurer une liaison ou un prochain mariage.
Alors vous m'aviez dit, Arnaud, qu'aujourd'hui vous seriez costumé en chinois, mais finalement ça n'est pas du tout le cas. Vous portez un costume noir avec un ruban rouge qui vous traverse la poitrine.
Alors j'avais l'intention aujourd'hui pour ce bal de carnaval de me costumer en empereur chinois. Malheureusement, le temps m'a manqué avec l'organisation de la journée et l'on va dire que j'ai mis un habit normal de bal Second Empire, qui est l'habit à la française. La culotte noire en satin, le bas noir en soie, le gilet blanc, la chemise blanche à col cassé, le nœud blanc et bien sûr la frac, la queue de pie que nous connaissons encore. En fait, cela ressemble beaucoup aux musiciens d'orchestre philharmonique. À la seule différence, c'est que Napoléon III avait remis à la mode la culotte et le bas, noir pour ne pas faire trop monarchiste, et assurer un nouvel habit à la française.
Il faut toujours inviter deux tiers en plus de danseurs que de danseuses. Un maître et une maîtresse de maison, quelque jeunes qu'ils soient, ne doivent que fort peu danser chez eux. Et encore, ne peuvent-ils pas le faire quand d'autres danseurs restent sur leur banquette, les uns faute de place, les autres faute de cavalier. Un maître de maison doit faire danser les femmes respectables qui ont encore ce travers. En un mot, les délaissées. Une maîtresse de maison doit avoir soin non seulement d'envoyer des danseurs aux danseuses qui n'en ont pas, mais encore d'occuper les mamans. En un mot, la tapisserie.
La belle avait pris mon bras. Nous rencontrâmes le comte Walewski, qu'elle arrêta en lui portant les armes avec un bouquet de violettes. « N'est-ce pas, lui dit-elle, que je ne connais pas Arsène Housset ?»« Je ne sais pas, répondit le comte, mais je sais bien qu'il ne vous connaît pas, car moi, qui vous rencontre souvent dans le monde à visage découvert, je n'ai pas deviné votre énigme. » J'avais gagné du temps à force d'éloquence. Je finis par la décider à souper. J'aurais bien voulu que ce fût au café anglais, ou à la maison d'or, ou chez moi, ou chez elle. Mais elle n'accepta que le souper debout, le souper avec le masque. Quoiqu'elle se défendît bien, toujours avec un éventail, car je ne la prenais pas au mot quand elle me rappelait à l'ordre, j'avais fini par faire quelques découvertes géographiques. Un cou adorable, des cheveux blonds ruisselant de lumière dans leurs ondes soulevées, une épaule tombante, doucement nourrie de chair, deux seins fiers d'eux-mêmes, comme des jeunes chevaux qui savent leur beauté et qui lèvent orgueilleusement la tête.
C'est un lieu de séduction, où l'on cherche un amant, où l'on cherche une maîtresse, où l'enjeu, somme toute, c'est ne pas de sortir en couple. Donc c'est indéniablement un lieu de transgression en ce sens. C'est également un lieu de transgression des codes de la conversation. La conversation est beaucoup plus libre dans les mâles masqués. Cela se voit en particulier au travers de ce qui est le cœur des bals masqués, beaucoup plus que la danse, beaucoup plus que la séduction sans doute, c'est ce qu'on appelle l'intrigue. Intriguer, c'est la grande affaire des bals masqués au XIXe siècle. Intriguer, c'est éveiller la curiosité de quelqu'un que vous reconnaissez, qui ne vous reconnaît pas parce que vous êtes masqué, et tout le jeu, c'est de rester anonyme aux yeux de la personne que vous avez identifiée, et tout le jeu pour la personne que vous intriguez, c'est de vous démasquer. Et cette intrigue, elle repose sur des perfidies, sur des dévoilements de secrets que la personne est censée posséder, etc. Donc là aussi, il y a une forme d'affranchissement vis-à-vis des normes.
Morny vint à passer dans un cortège de curieuses. Il me fit un signe pour me dire que j'étais bien tombé. Quoique je ne voulusse pas me séparer de la dame, même pour une seconde, j'allai à Morny pour le questionner. « Non, non, » dit-il en raillant, « tout masque ici est sacré. C'est à vous à dénouer le masque. » «
On parle, on discute, on intrigue. C'est l'occupation essentielle d'un bal masqué. Mais on s'y observe aussi abondamment. Les arrivées des personnes masquées et costumées sont évidemment guettées avec passion et vigilance. On y a beaucoup dansé. Ça, on le sait, puisque effectivement, les personnes costumées en costume Louis XV portaient des perruques poudrées, et beaucoup de témoignages insistent sur le fait qu'il y avait de la poudre partout par terre à l'issue des danses. Donc, on y a beaucoup dansé également. Ce sont les activités prioritaires. On y a sans doute également, et ça, Julie Bonaparte nous renseigne là-dessus, on y a sans doute également beaucoup discuté politique. C'est-à-dire que c'est à la fois un lieu où l'on intrigue, où l'on se séduit, où l'on cherche à se mystifier, mais c'est aussi un rendez-vous politique, tout simplement par la nature des invités qui sont là. Et donc, sans doute, les ambassadeurs, les ministres présents ont discuté des affaires du moment. Et la grande affaire du moment, qui ne pouvait être absente des discussions, c'est bien sûr la guerre contre l'Autriche, aux côtés du royaume de Piémont-Sardaigne, pour la construction de l'unité italienne qui se profile. C'est indéniable que tout le monde l'a en tête.
Est-ce que du point de vue du discours politique, le bal masqué devient une métaphore peut-être aussi du jeu politique du temps ?
Il est assez frappant de voir que Napoléon III, qui a été dénoncé, critiqué comme l'homme du masque, du secret, comme le sphinx également, a été un grand organisateur et un grand amateur de bal masqué. Donc à la fois, il a accrédité finalement cette image et en même temps, il en a été victime puisque les caricaturistes, les opposants au régime ont dénoncé à la fois la fête impériale, mais aussi la politique du secret qui semble symbolisée évidemment par les bals masqués. Est-ce que pour autant il faut faire des bals masqués une sorte de métaphore du régime ? Je n'irai sans doute pas jusque-là, mais indéniablement il y a quelque chose d'assez intrigant pour l'historien, à voir que cet empereur du masque, cet empereur double, insaisissable politiquement, a organisé plus qu'aucun autre et comme aucun autre, puisque aucun autre homme politique ne l'a fait à ce point, des fêtes travesties et des fêtes masquées.
Que vous dirais-je ? Nous soupâmes gaiement, ce qui mit un peu de gaieté dans notre passion improvisée, car est-il rien de moins rieur que les passions ? Nous avions toujours l'air de nous moquer l'un de l'autre, mais nous nous étions pris à ce feu de paille des aventures parisiennes. Quand la dame demanda ses chevaux, je me hâtais de lui dire que je n'en avais plus. « Eh bien, vous figurez-vous que je vais vous reconduire chez vous ?»« Chez vous, si vous voulez. Rien que cela. Me prenez-vous pour une soupeuse ?»« Je sais très bien qu'il y a soupeuse et soupeuse. Vous me permettrez au moins de vous conduire jusqu'au marchepied de votre coupé ?» « Non. Vous savez bien que je vous connais. Vous me connaissez mal. Emmenez-moi chez vous. Je vous ferai ma confession. Non. »
Il faut, pour pouvoir veiller toute la nuit, faire la fête toute la nuit, soit ne pas travailler le matin, soit pouvoir se l'offrir, tout simplement. Et par exemple, le retour tardif du bal masqué est l'objet très souvent dans les mémoires, dans la presse ou dans l'iconographie d'un certain nombre de dessins qui montrent les conflits entre les portiers, ce qu'on appelle les portiers ou les portières, c'est-à-dire les concierges d'immeubles, qui ouvrent les portes au fêtard, au petit matin ou dans la nuit, et on voit que c'est source de conflits entre le portier obligé d'ouvrir et le fêtard qui rentre tardivement de son bal masqué.
Elle se leva. « Adieu, adieu, tu m'écriras au nom de Mademoiselle Elisa. » Cette fois, elle s'envola comme un rêve. Morny, me voyant seul, vint à moi. Eh bien, et la femme aux violettes, envolée. Vous savez que je ne sais pas qui. Et moi donc. Alors, c'est un roman. J'espère que ce ne sera pas une histoire.
Merci.
merci à Corinne Legois, Arnaud de Giovanni et l'association Carnet de Bal, et André Ardenne du musée Carnavalet.
Adieu.
Merci également à Arsène Housset pour ses confessions. Lecture, Sarah Chaumette et Renaud Bertin. Prise de son, Yvan Turc. Mixage, Claude Niort. Un soir chez Morny, le bal masqué du 2 mars 1859, Anaïs Quin, Françoise Camard.